Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition, mais très rapidement. Alors, en rappelant, en expliquant, en découvrant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale depuis un peu plus d'un siècle les petites images qui bougent. Et puis, je vais aussi rappeler, je ne le fais pas à chaque fois par contre, que notre générique est une musique de film. Ça, vous l'avez déjà compris. En l'espèce celle d'un film de Blake Edwards tourné, sorti quelque part entre 1961 et 1962, et oui déjà, une petite merveille intitulée Diamant sur canapé en français, Breakfast at Tiffany's in English, et qui mettait en vedette Audrey Hepburn, ai-je besoin d'en dire plus, avec une bande originale signée d'Henry Mancini et une chanson titre qui s'appelle Moon River, vous l'aurez peut-être compris, et qui fut en son temps un hit absolument gigantesque et qui reste, je pense, relativement connu. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, on va faire de la musique de film sans faire de la musique de film. Mais qu'entendez-vous par là, ô maître de la musique de film ? Eh bien, tout simplement parce que nous allons voir comment le cinéma s'est parfois accaparé la musique classique et que, faisant du crossover, eh bien, vous allez écouter quelques morceaux relativement connus, il faut bien le dire, de musique plus ou moins classique qui ont peut-être inspiré les cinéastes, en tout cas, dont les cinéastes sont servis pour illustrer leurs films. Alors parfois, disent les puristes, j'en suis aux dépens des vrais compositeurs de musique de film, parce que le plus souvent, l'avantage d'utiliser de la musique classique, c'est qu'on ne paye pas de compositeur et que parfois même, on ne paye pas ou peu de droits. L'avantage aussi, parfois, c'est que les musiques sont déjà connues des spectateurs, auditeurs, ce qui est toujours un plus. Quand vous écoutez quelque chose que vous connaissez déjà, eh bien, vous avez l'air plus intelligent, vous vous sentez plus intelligent plutôt. Nous allons commencer en écoutant un extrait de Vivaldi pour un film tourné en 1979 et qui n'avait pas grand-chose à voir avec Vivaldi puisqu'il appartenait plus ou moins à cette tradition des films de tribunaux où l'on voit des personnages s'entre-déchirer tout au long d'une procédure complexe comme la justice américaine sait en produire. Et en l'espèce, il s'agissait d'un procès pour savoir qui garderait l'enfant né d'un mariage qui a mal tourné en divorce, une histoire ô combien quotidienne. Elle l'était déjà en 1979, je pense qu'elle l'est plus encore aujourd'hui, pour un film qui était signé de Robert Benton, un film qui s'appelle Kramer contre Kramer, j'y reviens, un film de Robert Benton qui n'était pas dans les années 70 un inconnu, en tout cas comme scénariste, puisque dès 1962, il avait collaboré au classique d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde, qu'on le vit ensuite eh bien, dans des films un peu plus improbables, comme le Superman qui mettait en vedette Christopher Reeve, et à ma souvenance, et sauf erreur, en 1979, Robert Benton signa sa première mise en scène, sa première réalisation, un coup d'essai, un coup de maître, puisque le film fut un très grand succès commercial et puis aussi offrit l'occasion à pas mal de ses collaborateurs d'avoir un Oscar. J'avoue que j'en ai pas la liste sous les yeux. Et puis aussi, il offrit d'une part à Dustin Hoffman, le solide Dustin Hoffman, l'occasion de conforter une position de superstar déjà largement assurée, et à une actrice qui, à l'époque, il fallait bien qu'elle le fût à un moment ou à un autre, était moins confirmée, moins aguerrie que Dustin Hoffman, en l'espèce Meryl Streep. L'incomparable, l'indépassable, l'inusable aussi, Meryl Streep, qui en 1979, eh bien, commençait à devenir, elle aussi, à faire ses premiers pas d'apprenti star dans une histoire où on voyait donc Ted Kramer, jeune publiciste, quitté par sa femme, Joanna Kramer, obligé de s'occuper de son enfant, le petit Billy, interprété par Justine Henry, qu'on n'a pas revu depuis, à ma connaissance, jusqu'à ce que eh bien, la mère revienne chercher l'enfant pour découvrir qu'au fil du temps s'était tissée une relation très forte entre le fils et le père. Bref, une histoire tout à fait quotidienne et tournée sans aspect mélodramatique outrancier, comme on aurait pu le craindre, par Robert Benton, qui donc, au lieu d'utiliser un compositeur de l'époque, je ne sais pas moi, au hasard, Jerry Goldsmith, Jerry Fielding ou quelques autres, choisit de s'en remettre aux mânes de Purcell et de Vivaldi pour faire l'accompagnement musical de ce film. Et c'est le dernier cité que nous allons entendre. C'est un extrait du concerto en C majeur pour mandoline et cordes, mouvement 1 allegro. Allons-y, maestro, dans 24 notes secondes. « Alors, je vais vous le faire façon France Musique. Nous venons d'entendre un extrait du premier mouvement Allegro du concerto en C majeur pour mandoline et cordes d'Antonio Vivaldi, adapté et dirigé par Herb Harris. C'était pas mal, mais je préfère quand même le style divergent dans 24 notes secondes ce jour. Une émission consacrée à la musique classique au cinéma, donc un extrait de la bande originale de Kramer contre Kramer, un film de Robert Benton tourné en 1979. Et nous allons reculer de quelques années pour l'extrait suivant. Alors c'est bien différent et d'aucuns puristes, ceux de France Musique, vous diront que ce n'est pas de la musique classique, mais vous en jugerez par vous-même. Tant que c'est de la musique, ça n'a pas d'importance. Disons quand même quelques mots du film illustré, en l'espèce un film de George Roy Hill, c'est mieux tourné en 1973. En anglais, ça s'appelait The Sting. En français, et je pense que c'est pareil, ça s'appelait L'Arnaque. Et l'on y voyait Paul Newman et Robert Redford à nouveau réunis, je dis à nouveau, puisqu'ils avaient un an ou deux plus tôt, sous la direction du même George Roy Hill, assuré la réussite de Butch Cassidy et le Kid avec une chanson fameuse, Toute la pluie tombe sur moi. Non, je ne vais pas vous la faire dans notre émission. Et donc, évidemment, un trio vedette qui avait triomphé ne pouvait qu'être réuni en l'espèce pour un film, une fantaisie tout à fait goulayante qui se passait dans l'Amérique des années 30, l'Amérique de la Prohibition, quelque part à Chicago, bien sûr. Qui d'autre, ou plutôt où d'autre, pendant la Prohibition, pour une histoire d'arnaque dont était victime le machiavélique et brutal Robert Shaw. Le tout ne se prenait pas au sérieux, le tout était fort réussi, le tout obtint une pluie d'Oscars, meilleur film, meilleure mise en scène, meilleur scénario. Bref, excusez du peu, Paul Newman et Robert Redford étaient absolument impériaux. C'était l'époque dans les années 70 où il y avait un revival nostalgique justement de ces années 30 qu'on voyait comme des années bénies. Elles ne l'étaient peut-être pas autant qu'on le pensait, mais en tout cas cela fit un film très réussi et cela fit aussi le succès d'un musique. Un petit air, ce qui n'est de Scott Joplin, qui avait été composé quelque part au début du XXe siècle. Alors forcément, vous avez déjà entendu ça. Ah, c'est bon ça, verbatim de Bruno. Merci Bruno. Bonjour Bruno, un extrait de la bande originale de L'Arnaque de George Roy Hill de 1973, le film de 1973, un thème musical composé quelque part au début du XXe siècle par Scott Joplin, le genre d'air qui donne l'illusion aux apprentis pianistes de savoir taper sur un piano, mais l'illusion seulement, ça ne doit pas être si facile à jouer qu'il y paraît. En tout cas, cela a eu autant de succès, c'est peu dire que le film en 1973, La petite histoire de ma fiche qui ne ment jamais, les fidèles de 24 notes secondes le savent, La petite histoire raconte que les producteurs, je vais y arriver, de ce film, Richard Zanuck et David Brown, profitèrent du succès commercial magistral pour s'attaquer à un autre film qui apparemment était difficile à monter et qui était Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. On a du mal à croire que les producteurs pouvaient douter du succès des Dents de la Mer, c'était le cas. Et de L'Arnaque, on est passé aux Dents de la Mer, petites histoires du cinéma hollywoodien dans le cadre de 24 notes secondes où ce jour, eh bien, nous nous intéressons à la musique classique, entre guillemets, pour illustrer le cinéma. Et nous allons rester aux États-Unis à tout point de vue, à la fois du point de vue du film, mais aussi du point de vue de la musique, puisque nous allons écouter un extrait de la bande originale d'un film de Woody Allen, le 8e, dit ma petite fiche, voire plus haut, le 8e, tourné en 1979 et qui s'appelait tout simplement Manhattan, et c'était vraiment bien choisi puisque Manhattan était avant tout un hommage à la ville-monde fétiche du susdit Woody Allen, plus qu'un film avec une histoire relativement classique chez Woody Allen qui est un peu la sienne, où on voyait Isaac Davis, écrivain apprenti écrivain plutôt de 42 ans, racontant ou plutôt essayant de raconter ses amours dans sa ville de New York, et avec évidemment plein de filles comme toujours chez Woody Allen. En l'espèce, il y avait dans Manhattan Diane Keaton, dont c'était la cinquième apparition, je vais y arriver, mais quand on parle de Diane Keaton, on bafouille forcément. Donc Diane Keaton qui jouait le rôle de Mary Wilk aux côtés de Woody Allen, mais on trouvait aussi, excusez et du peu, Meryl Streep, déjà citée, et Marielle Hemingway, la petite nièce ou la petite fille carrément d'Ernest Hemingway, qui connut, sauf erreur de ma part, un destin fatal quelques années plus tôt et qui, dans le film, avait 17 ans, alors que Woody Allen s'octroyait le rôle d'un écrivain de 42 ans. Je ne sais pas exactement quel âge il avait en 1979, mais ça devait être quelque part comme ça. Et les deux filant le parfait amour, vraiment, Woody, on ne s'embête pas quand on est au cinéma. Le tout, ceux qui l'ont vu, éblouis, s'en souviennent, était filmé en noir et blanc. En noir et blanc, magnifié par Gordon Willis, l'un des collaborateurs préférés de Woody Allen. Et le tout ne pouvait être illustré que par une musique américaine. Et là encore, j'aurais pu vous laisser deviner, mais disons-le quand même, qui d'autre que George Gershwin, qui d'autre que la Rhapsody in Blue pour illustrer les magnifiques images du film. On se souvient du générique de ce film et de la musique en même temps. Donc on va essayer en fermant les yeux, mais attention, il ne faut pas être au volant pour ça, je vous le rappelle. On va essayer en fermant les yeux de revoir Manhattan. Et puis tiens, après on se précipitera sur le DVD s'il le faut. Je vous avais dit que je bafouillais quand je parlais de Woody Allen et de Diane Keaton. Allez, j'arrête de bafouiller. Manhattan, Woody Allen, George Gershwin et 24 notes secondes. Thank you. Ah bah oui, ça finit presque comme ça avait commencé, mais comme c'est bon à écouter sous la douche. Et là, c'est pas pour en dire du mal, le genre de musique. Le matin, ça vous donne la peps, évidemment, c'était la Rhapsody in Blue de George Gershwin, 1924 en l'espèce, et je ne le fais pas façon France Musique, c'était le Philharmonique de New York, qui d'autre conduit, pardon, dirigé par Zubin Mehta avec... En piano solo, Paul Jacobs pour un extrait de la bande originale de Manhattan, un hymne à New York, un hymne à Manhattan de Woody Allen, certainement l'un des meilleurs films du susdit. Et comme j'ai encore une fois été trop bavard, on va parler très peu du dernier extrait musical et du dernier film. Donc, en l'espèce, un film d'Oliver Stone tourné en 1986, Platoon. Ça se passait quelque part au Vietnam dans les années 70. On y voyait Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen dans les rôles principaux. C'était largement autobiographique puisque Oliver Stone, scénariste remarqué de Midnight Express et de L'année du dragon, entre autres, avait lui-même été engagé volontaire, blessé et décoré au Vietnam. Un film extrêmement dur qui obtint un triomphe commercial et artistique, et notamment 4 Oscars, dont les deux plus prestigieux, meilleur film et meilleur réalisateur, alors qui présente la curieuse particularité, mais pas si curieuse que cela, de bénéficier d'une bande originale signée de Georges Delerue, et oui, notre national Georges Delerue, et puis aussi de quelques extraits musicaux adaptés par le susdit Georges Delerue, et en l'espèce, l'adagio pour cordes de Samuel Barber, que vous avez certainement, et je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, que vous avez certainement déjà entendu ailleurs, par exemple dans la bande originale d'Elephant Man de David Lynch, et sur lequel, ou plutôt en compagnie duquel je vous laisse, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la Rhapsody in Blue. J'ose à peine. 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.